l'inflation qui arrive, comme bah, toutes ces canicules qui sont de plus en plus fréquentes l'été. Et du coup, il y a aussi un enjeu social derrière, hein, c'est-à-dire bah, rendre l'habitat, l'habitat qui est l'habitat précaire aussi, le rendre, voilà, rendre nos maisons plus, plus agréables à vivre, plus faciles à vivre pour tout le monde. Donc l'objectif, voilà, nous, si on regarde un petit peu à long terme, parce que tout ça, on ne va pas le faire du jour au lendemain, là on est pris dans la... Pour aujourd'hui, c'est la plateforme, il faut sortir le bâtiment du sol, etc. Mais le rêve qu'il y a derrière, on va dire, l'utopie qu'il y a derrière, c'est l'idée, voilà, de fournir un lieu qui permette de répondre à toutes ces situations, en fait, de besoin de rénovation du bâti sur le territoire.
Et de relocalisation, donc de robustesse aussi d'un système et de relocalisation de l'économie, donc la richesse qui est produite ici et pas à l'autre bout du monde.
Bah, tout à fait, évidemment, quand vous, c'est, voilà, quand vous déposez, j'en sais rien, cette terre par exemple, ces adobes d'une maison qui est sortie ici, que vous les amenez sur notre plateforme, que vous les revendez et que des gens, des artisans du coin travaillent sur votre maison pour la mettre en place, bah, en fait tout ça c'est de l'économie locale, en fait l'argent n'est pas sorti d'ici. Si vous allez acheter des briques par contre dans un magasin, des briques qui ont été fabriquées mais à l'extérieur du territoire, etc., bah, vous allez payer à des entreprises qui ne sont pas sur le territoire, bah, vous allez avoir une fuite en fait d'argent en dehors du territoire. Et donc évidemment, oui, on participe, et je pense que c'est un élément extrêmement important, bien sûr, à la relocalisation de l'activité. Ouais.
Alors il y a une dernière question que j'aimerais te poser, c'est, tu m'as parlé donc de cette coopérative Eco-Habitat, mais il y a une chose dont une coopérative, on a vaguement une idée de ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste?
Bah, une coopérative, c'est un regroupement de personnes, des gens, on peut dire ça, qui vont s'auto-organiser pour répondre à un besoin qu'ils ont en commun. Donc on peut dire que la coopérative, initialement, c'est vraiment ça.
La différence avec une association, c'est qu'elle a le droit de faire des bénéfices, c'est quoi ?
Oui, c'est ça, c'est qu'une, on va dire de façon générale, une coopérative est plus équipée pour venir répondre à une question économique, bien que l'association puisse faire plein de choses aussi en réalité avec une association. Mais une coopérative, c'est une entreprise, on peut dire ça aussi. C'est une entreprise, c'est-à-dire que nous, par exemple, nous sommes une SARL, voilà, une SARL, mais une SIC SARL, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, SARL, c'est-à-dire que vous avez un statut, on est une entreprise commerciale, mais par-dessus, il y a un statut coopératif, c'est-à-dire qui rajoute un certain nombre d'obligations, qui sont des obligations qui ont trait au fonctionnement coopératif.
Comme
la démocratie. La grande particularité, une des grandes particularités de la coopérative quand même, c'est que c'est une entreprise qui va pouvoir faire exactement les mêmes choses que toutes les autres entreprises, sauf que c'est une entreprise démocratique. C'est-à-dire qu'on a comme une de dire, finalement, la démocratie s'est arrêtée à la frontière de l'entreprise, hein, dans notre monde économique. C'est-à-dire qu'on trouve normal que bah, une commune fonctionne de façon démocratique, qu'une région fonctionne de façon démocratique, que des instances publiques fonctionnent de façon démocratique. Par contre, les entreprises ne fonctionnent pas de façon démocratique. Pourquoi ? Parce que le pouvoir est à ceux qui ont apporté le capital à l'intérieur. La particularité dans une coopérative, c'est que quel que soit le capital que vous avez amené, vous avez une voix. Voilà. Ce n'est pas le nombre de capital qui détermine le nombre de voix, c'est une personne, une voix. Donc on a égalité dans l'entreprise de la même manière qu'on a une égalité politique à l'extérieur.
Le capital amené, lui, fait des parts dans la coopérative qu'on peut récupérer quand on la quitte.
Oui, c'est des parts sociales. Alors ça, c'est des parts sociales qu'on a comme dans d'autres entreprises. Mais la particularité, c'est que celle-là, effectivement, ne... Alors il y a deux particularités. C'est qu'effectivement, elle ne donne pas plus de pouvoir que vous pouvez en avoir. Nous, la part sociale, par exemple, est à 100 euros. Que vous en ayez amené, acheté 10 en rentrant, 100, 1000 ou une, vous avez toujours une voix. L'autre particularité, c'est la rémunération du capital dans une coopérative qui va être beaucoup plus limitée que dans une entreprise, classique, où l'objectif en fait d'une on va parler de lucrativité limitée. Évidemment, une coopérative, c'est une entreprise, donc il faut qu'elle fasse des recettes, des bénéfices, il faut qu'elle soit rentable, tout simplement, comme n'importe quelle entreprise. La différence, c'est que par contre, ces bénéfices vont être attribués prioritairement au projet et à la continuité du projet. Et éventuellement, vous pouvez avoir une rémunération du capital, c'est plutôt très rare, voire quasiment nul, sur des types de coopératives comme les nôtres, qui sont une société coopérative d'intérêt collectif, on peut en dire un mot d'ailleurs sur sa spécificité, mais Voilà, l'idée générale, c'est ça. Donc, pas de démocratie, pas de lucrativité, pardon, hein. En tout cas, lucrativité limitée du capital.
Alors, tu me disais donc cette spécificité de la SCIC.
Oui. Alors, la SCIC, c'est une forme assez nouvelle, parce qu'elle a 25 ans à peu près, cette forme juridique-là. Initialement, la coopérative sont plutôt des coopératives de travailleurs. C'est ce qu'on connaît, c'est les SCOP, qui sont des gens qui se réunissent, s'auto-organisent pour mettre en commun leur travail et pour venir produire, pour voilà, posséder leur entreprise, c'est-à-dire venir devenir eux-mêmes les patrons de leur entreprise et partager le pouvoir de leur entreprise.
Oui, les coopératives, à la base, c'est le Crédit Agricole, ce qui est devenu le Crédit Agricole maintenant, c'est les grandes coopérative agricole, c'est eux qui ont lancé un peu la coopérative.
Pas tellement. Pas tellement, on pourrait dire. Non, pas tellement.
Ça a été dévoyé, mais à la base, c'est ça.
Non, la coopérative est née plutôt dans le travail, on va dire réellement. Les premières coopératives, c'est dans les années 1830, en fait. C'est des artisans qui se regroupent pour mettre en commun leur outil de production et qui vont créer ces premières coopératives de travailleurs. On va avoir plus tard, en fait, des coopératives bancaires comme le Crédit Agricole ou des coopératives agricoles, mais qui ont des particularités. Les coopératives agricoles, c'est un peu différent. Et ce qu'on peut dire, voilà, sur l'histoire coopérative, c'est que on a une tendance pour les grandes coopératives à un moment donné à se normaliser. C'est ce qu'on observe sur les grandes coopératives agricoles ou bancaires, où on n'arrive plus à faire la différence au final entre ce que font ces entreprises-là et puis des entreprises qui ne seraient pas coopératives. Donc,
et elles ne travaillent plus forcément pour les gens qui les ont créées, pour qui elles ont été créées, elles fonctionnent en vase clos pour elles-mêmes.
C'est ça. Elles ont perdu quelque chose en route, en fait. Et c'est intéressant de le dire, parce que qu'est-ce qu'elles ont perdu en route ? Ben, elles ont perdu leur raison d'être là, qui est, je parlais d'utopie tout à l'heure, et pour moi c'est vraiment extrêmement important, c'est ça, c'est-à-dire c'est le rêve qui les portait initialement. C'est-à-dire, les coopératives bancaires, par exemple, ont été créées initialement de façon, et le Crédit Agricole notamment, c'est-à-dire pour répondre aux besoins de financement des petits agriculteurs. Et ça, voilà, l'utopie, c'était ça, c'est de fournir à chaque agriculteur le moyen de pouvoir accéder au crédit, etc. Bon, ben, ça, ce rêve-là, c'est perdu en route, clairement. On va dire que, voilà, les coopératives agricoles, c'est aussi la même chose. Donc, ce qui est extrêmement important, et ce qui est toujours une tension dans la coopérative, ça va être les objectifs de rentabilité que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui est sur un marché, qui a des objectifs économiques et qui doit garder aussi qui doit garder son rêve à l'intérieur vivant, c'est-à-dire son projet, ce qu'on peut appeler aussi son projet politique, et c'est ça qui crée des tensions, parce que des fois politiquement on voudrait aller beaucoup plus loin mais la réalité économique ne le permet pas, et voilà, il faut faire en sorte que ce ne soit pas toujours la réalité économique qui gagne.
Et alors la SCIC, elle amène quoi de plus ?
Alors la SCIC, sa particularité, c'est que c'est une entreprise, c'est une coopérative multipartenariale, dans laquelle vous pouvez regrouper autour d'un projet des gens qui ont un intérêt commun autour de ce projet. Nous, typiquement, ça veut dire que vous n'avez pas que des travailleurs, que les gens qui travaillent dans la coopérative. Nous, par exemple,
on peut avoir des actionnaires, finalement.
Alors, c'est plus que... c'est pas des actionnaires, parce qu'ils sont tous actionnaires, finalement. Ils sont tous sociétaires. En coopérative, on dit pas actionnaire, on dit sociétaire. Mais ce sont des gens qui sont tous, qui amènent leur une fois de plus, pas pour gagner des sous, parce qu'ils vont pas en gagner. Je veux dire, ça peut pas être une motivation. Ils savent, on leur dit dès le début qu'ils s'enrichiront pas en venant chez nous. Par contre, ils vont avec nous venir répondre à un besoin commun, et ici c'est autour de l'habitat. Donc les collectivités peuvent rentrer dans la coopérative, les artisans peuvent rentrer dans la coopérative, des bénévoles, toute une série de gens qui sont intéressés par un projet commun, et le principe de la coopérative, c'est ça, et c'est ça qu'on essaie de développer sur notre territoire, regrouper toutes les bonnes volontés autour de la question de l'habitat.
Merci, beau projet à qui on souhaite vraiment une belle réussite. Un endroit où les gens qui veulent s'inspirer de votre modèle, de vos idées, peuvent aller voir des choses.
Eh bien, un site internet, ouais, qui s'appelle ecohabitat.coop, COOP, comme coopérative.
Merci beaucoup, Julien. Bon vent donc à ce projet.
Merci à vous, Nicolas.
Lancez la carotte et écoutable sur internet. À la semaine prochaine.
Horizon partagé. Après des années à baigner dans la culture européenne, Sabrina a décidé de mettre sa vie entre parenthèses pendant 3 semaines pour aller vivre une expérience profondément transformative. Une retraite spirituelle en Inde, guidée par la sagesse ancestrale de la médecine Ayurveda. Sabrina partage avec nous son cheminement, fait de découvertes, de confrontations et de reconnexions. Dès son arrivée, c'est un tout autre univers qui s'est ouvert à elle, une Inde vibrante, loin des clichés, où l'omniprésence de la technologie s'efface pour laisser place à l'essentiel,
les relations humaines.
Elle nous parle de l'amour et de la chaleur des gens, de la façon dont ils vivent leur quotidien, souvent marqué par la pauvreté. Mais ce voyage ne s'est pas arrêté à la surface des apparences. Pour Sabrina, c'était avant tout une quête intérieure.
Elle nous explique comment, à travers les pratiques ayurvédiques, elle s'est reconnectée à elle-même, à son corps, à son esprit et plus largement à la nature.
Dans un regard, il y avait peut-être plus de relations et de contacts que ce que tu peux croiser au quotidien, même avec ta boulangère ou quoi. Et ça m'a émue, parce que je suis sensible aux gens, sensible par empathie à leurs ressentis. C'est Sabrina Pidolo. Je suis partie à l'autre bout du monde, pour moi en tout cas, dans le Kerala. J'ai vécu une toute petite expérience de l'Inde. Dans le cadre de mon travail, j'ai la chance de travailler avec des partenaires avec des horizons différents, dont une partenaire praticienne en Ayurveda. Et elle, ça faisait plusieurs années, elle a été formée par des médecins indiens, qu'elle partait une fois par an faire une cure d'Ayurveda. Début d'année, elle me dit qu'elle réorganise un voyage pour septembre. Moi, je dis, allez, c'est bon, je te suis. En 5 minutes, la décision a été prise. Car au fond de moi, j'avais envie déjà de vivre une espèce de retraite, sortir de notre culture. Moi, j'ai jamais voyagé en dehors de l'Europe. J'ai habité 6 mois à Londres, mais c'est un peu dépaysant, mais c'était pas l'expérience que j'ai vécue en partant justement de notre Europe, de notre culture. J'y suis allée comme une enfant curieuse. J'y suis allée avec un esprit formé d'une certaine manière, hein, par l'éducation que j'ai eue, par mon vécu, avec la conscience que j'allais découvrir quelque chose de différent, mais je ne savais pas l'impact que ça allait avoir sur moi. J'avais besoin de respirer. J'ai eu 3 semaines en digital détox complète. On est allé dans un hôpital ayurvédique, vivre l'expérience de cette médecine, de cette purge complète. À peine j'ai mis le pied dans l'aéroport en Inde, j'ai été bouleversée déjà par les gens qui étaient réellement en présence. Il n'y avait pas, tu vois, tous les téléphones, tout ce que, en fait, les usages n'étaient pas les mêmes. Et tu avais les gens qui te regardaient réellement dans les yeux, qui te touchaient, mais pour rentrer en contact de manière respectueuse, tu vois. Mais il y avait aussi une curiosité, parce que je suis blonde aux yeux clairs, donc je voyais qu'il y avait une joie de rencontrer la différence. La vraie purge, elle a été de me confronter à mes croyances limitantes, à mon esprit finalement formaté dans notre culture, et de purger ça pour vivre l'expérience de la relation humaine et de la relation à la nature dans ce qu'il y a de plus authentique. De partir à la rencontre d'une terre tellement différente. Tu vois, j'y suis allée avec vraiment le cœur ouvert. J'ai été bombardée finalement de perceptions, parce que tu arrives dans un pays en plus où tu ne pratiques pas la langue, où les usages sont tellement différents. Tu es en hyper ouverture, tu vois, en hyper vigilance, mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire que tu goûtes à tout, c'est-à-dire à toutes les sensations, à toutes les images, à tous les échanges. En plus, il y a beaucoup de population là-bas, donc tu es sans cesse en train de inconsciemment capter plein de mises en relation tout le temps. Après, faut pas être non plus naïf, il y a aussi ceux qui nous voyaient comme des portefeuilles sur pattes, hein, c'est une réalité, mais globalement, j'ai trouvé au bout du monde des personnes qui m'apportaient plus de présence, d'affection, que des proches qui m'aiment et que j'aime, mais juste qui deviennent, et même moi, hein, je suis d'autant plus vigilante maintenant, limite on devient handicapé, tu vois, de la relation et de l'émotion. Moi, c'est la première fois que je découvrais, comment je pourrais dire, la circulation, comment elle est abordée dans ces pays-là. C'est magique, parce que tu te rends compte d'un truc, c'est qu'on est vraiment dans une société aseptisée, très ordonnée, très, très mentalisée. avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de règles. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, hein. C'est juste un constat, comme si on vivait avec notre cerveau gauche surstimulé dans le pays. Tout est réfléchi, tout est calculé, tout est j'ai le droit, j'ai pas le droit, c'est assez très, très codifié. Et là, tu arrives dans un pays où, de fait, il y a tellement de populations que même s'il y a des règles, en soi, ça ne peut pas être tenu. C'est le chaos. Et c'est là où moi, j'ai été particulièrement bouleversée et touchée de voir que le vivant prend le dessus. Il y a une forme de lâcher prise, d'acceptation. Il y a des choses qui nous paraîtraient incohérentes. Enfin, tu as parfois des scooters, ils sont 4-5 dessus. Tu as l'enfant qui dort derrière. Je fais, mais comment il fait pour ne pas tomber? Tu vois, tout devient nouveau. Tout ce que tu peux observer est différent. Le plus gros choc culturel que j'ai pu rencontrer en Inde, ça a été le constat que ça ne s'arrête jamais. Le bruit, le travail, l'agitation, la surpopulation, ça grouille de vie, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même la nuit, il n'y a pas de bulle de silence. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point on est une société qui est quand même privilégiée au niveau de ça. Tu dors, il y a des sons tout le temps, tu entends même au loin un chien agoniser, et à la fois, en même moment, tu vois des gens rire, être bons, être beaux. Tu as le beau et le moche de la vie, tu vois, qui cohabite. Pas revenir d'Inde indemne, entre guillemets. Tu peux pas revenir de la même manière. Les gens, ils ont rien, ils te donnent tout. Ça, on me le disait, mais là, pour le coup, je l'ai vu. Je l'ai vu lorsque, avec mon ami, on est parti sur des chemins. Bon, on était censé respecter certaines zones pour pas se mettre en danger, mais bon, à un moment donné, on s'est un peu perdu. On s'est retrouvé dans des routes un peu bidonvilles. Et j'ai vu. Des enfants, tu vois, qui étaient dehors, qui se douchaient au seau, hein. Il n'y a pas d'eau courante. Je voyais des choses par terre, des excréments, des trucs. C'est compliqué, tu vois, de voir des choses. C'était vraiment bidonville. Et je voyais cette mère qui, d'un seul coup, sort dans la rue. Elle était heureuse. Il y avait vraiment un regard de « Bonjour !» Il y avait vraiment une volonté de vouloir rentrer en relation avec nous. C'était comme si on était des porte-bonheur, tu vois. Mais déjà, la végétation, elle est luxuriante. Ils vivent avec la nature. On voit des problématiques dont on n'a pas conscience dans notre pays. On en parle, bon, ok, l'écologie, la gestion des déchets, bon, c'est plus ou moins un concept dans le pays. Mais là-bas, c'est concret, c'est réel. Tu as des déchets dans les quatre coins. Enfin, la gestion des déchets ne peut pas être la même que chez nous. Et tu vois des familles qui vivent là-dedans. Tu vois des problématiques. Tu vois l'impact un peu comme l'effet papillon. Tu vois ce qu'on fait chez nous, ce que ça... Ça fait l'autre côté du monde. Alors, ils ont d'autres problèmes, hein. Il ne faut pas être naïf, il faut avoir un regard quand même. Ils ont des problèmes de survie, voilà, de caste, tout ça. Mais ils n'ont pas les mêmes perceptions. J'ai pu en effet constater le problème de caste. Ça m'a été assez violent en fait. Quand on est arrivé tout de suite autour de l'aéroport, bon, on voyait la pauvreté. Que moi j'identifie comme pauvreté, hein. Chez eux c'était pas encore la pauvreté la plus profonde, et ça je l'ai compris lorsqu'on s'est perdu dans certains bidonvilles, quoi, hein, vraiment. Mais déjà c'était assez frappant. Quand on est arrivé au centre autour, les rues étaient humbles, tu vois, il y avait des petits commerces, donc on voyait quand même que les gens étaient travailleurs, mais étaient vraiment dépendants de leur commerce. En mémoire à un commerçant d'épices qui disait que pendant le Covid, il dormait carrément dans sa boutique parce qu'il avait peur qu'il ait... C'était la seule chose, sa seule richesse, en fait. Donc, il avait peur qu'on lui vole. Et on voyait ces gens qui vivent du tourisme. Et quand tu penses que leur salaire moyen, c'est 40 € le mois, tu vois, ça te met un petit peu les proportions, tu vois. Donc, moi, bon, ok, j'avais cette perception-là. Pourtant, je voyais le sang qui était plutôt... riche, enfin qui était de belles prestations. Je devinais qu'on était privilégié dans cette bulle, hein. Et ça a été intéressant d'aller voir l'extérieur, les pêcheurs. On comprend qu'il y a pas mal de choses qui sont régulées dans la pauvreté pour pouvoir éviter les conflits de religion, de voilà tout ça. Et un jour, on est allé dans une espèce de supermarché vraiment locaux. C'était très beau. C'était encore humble, tu vois. Et un jour, il nous amène dans le Dubaï indien. Et là, on est rentré dans quelque chose qui était très, très moderne. Et là, d'un seul coup, tu retrouves des marques. Alors, quelques marques de luxe qu'on connaît, nous. Et puis, des marques, tu devines que c'est du luxe indien. Parce qu'il y avait vraiment les robes de mariée avec puis les prix. Tu devinais qu'on était sur des trucs hors normes. Tu vois, même pour nous, en tant qu'Européens, c'était cher. Les jeunes sont habillés de manière moderne, ils ont des iPhones. Moindre costume valait minimum 1000 euros. On était sur des choses, tu vois, qui étaient inabordables. Et on comprenait bien qu'il y avait des castes. J'ai ouvert mon regard sur la fin du, enfin sur, à partir de la moitié de mon séjour. Et j'ai observé comment même les médecins traitaient les soignantes, etc. Et là, j'ai observé qu'en effet... ça se mélangeait pas. Tu vois, il y avait vraiment des castes. Et ils sont pas tendres, tu vois, entre eux. Et pourtant, quand ils nous reçoivent, ils te donneraient tout. Il y a vraiment un regard bon. Mais dans le fonctionnement sociétal, c'est chacun sa place. Ce voyage en dehors de ma terre de naissance... et du cadre dans lequel j'ai grandi et cheminé, cet éclatement du plafond de verre m'a fait aussi voyager en dehors de moi, qu'on va dire. Hein. Tu dis, ouais, attends, pourquoi te limiter à penser comme ça? Pourquoi te limiter à voyager là? Pourquoi te limiter à penser que tu dois t'organiser comme ça? Pourquoi te limiter? Et je suis en joie parce que, tu vois, j'ai retrouvé une connexion que j'avais un peu perdue avec le temps. De laisser aussi l'intuition, de laisser ce qu'on appelle synchronicité, tu vois, le hasard, œuvrer. Et tu vois, j'ai compris un truc. Je suis arrivée avec ma maladresse d'européenne à un moment donné à l'accueil du centre ayurvédique. J'avais plus, je voulais, c'était le seul endroit où on captait un peu d'internet, c'était à l'accueil. Et j'avais oublié mon chargeur 150 marches plus loin en bas. Donc j'avais un peu. La flemme sur la fin de journée de redescendre pour remonter et je demande s'ils n'avaient pas un chargeur. J'avais un iPhone, c'était sur le premier jour. Hein. Je monte mon téléphone et je vois la tête du gars. Non, on n'a pas. Et je capte l'indécence de cette demande. J'avais pas capté mon iPhone à plus de 1000 euros, ce que ça représentait pour eux. Et j'ai eu honte sur l'instant. Mon plus beau souvenir, Tella Eleshpi, c'est le prénom de ma thérapeute. Parce que alors que c'était le premier jour que j'étais vraiment toute limite comme pas un Indien dans la ville, mais une Française dans l'inconnu, tu vois. Je l'ai vue simplement s'approcher de moi avec son énergie et ses petits brins de femme, tu vois. Me tendre la main, me regarder pleinement dans les yeux, dans son silence, me prendre la main, tu sais, et m'amener, en fait, me serrer contre elle, tu sais, avec une espèce de bienveillance, de contact humain, son regard, cette présence, cet amour de l'autre, quelle que soit sa destination, sa forme, sa figure, ses origines, et toute l'énergie aimante qu'elle m'a transmise en 3 semaines, et ouais, c'était Tella Eleshpi. Si je devais garder un truc. Leur connexion vivante, leur foi, parce que la spiritualité, elle est partout, chez eux, au sens large. Il y a toutes les religions qui sont représentées. Tout est fait en connexion avec le vivant. Tout. Tu vois, il y avait les jardins, ils coupaient les fleurs. Bah, ces fleurs-là, et au lieu de les balancer... Il les mettait soit en décoration, soit sur les différents sites de prière. Il y avait, on pouvait avoir une croix avec un Christ, un Bouddha. En fait, il y avait, et ça m'a touchée, c'est qu'il y avait un respect profond de la spiritualité au sens large. Là-bas, j'étais arrivée vraiment dans un excès parce que j'étais, même pour te dire une petite anecdote, J'en étais arrivée à être tellement en présence que je regardais tout. En fait, j'étais en joie. Bon, il y avait des corbeaux qui venaient. En fait, c'était vraiment des rapaces, des corbeaux qui sont là. Enfin, moi, en plus, les corbeaux, ils venaient, ils me parlaient. J'étais à côté. C'était drôle, tu vois, de les voir au contact des êtres humains. Et il y avait une cohabitation, tu vois. Et je me rappelle avoir eu une expression, mais qui a fait marrer mon ami. Même les animaux, c'était pas les animaux qu'on a ici. Et à un moment donné, il y avait même une mouche qui se pose. Et moi, avec une espèce de spontanéité de gosse, qui fait « Oh, t'as vu, elles ont pas la même tête que nos mouches !» Parce qu'elles avaient une tête un peu biseautée, tu sais, un peu en train. Mais j'étais en joie. Je voyais il pleuvait, il y avait les grenouilles qui sortaient. Il y avait des animaux incroyables, il y avait des animaux, il y avait des plates de, mais énormes, de presque 10 cm, tu vois, à sortir. C'était plus la découverte d'une faune et d'une flore complètement différentes, mais j'avais cette espèce d'émerveillement. Et en fait, ce qui m'émerveillait encore plus, c'est que ça faisait partie de la vie quotidienne. En fait, les gens vivaient avec... Il n'y avait pas des choses aseptisées, tu vois. Quand je suis rentrée, j'ai eu une espèce de moment assez étrange où mon corps était là, mais mon esprit était encore resté là-bas. Mais il y avait une espèce de, tu sais, de paix, de... Tu relativises tout, tu vois. C'est-à-dire qu'après, quand tu... En fait, le moindre problème, tu le prends avec une espèce de légèreté. Quand je suis rentrée, je l'avais encore. Après, le quotidien te rattrape. J'ai bien conscience que l'expérience vécue en Inde ne peut pas être transposée ici, parce que les paramètres ne sont pas les mêmes. Tout était fait aussi là-bas pour qu'on puisse vivre cette expérience. Tu ne peux pas retranscrire la même chose. Donc, il y a une espèce de rechute qui était essentielle, mais que j'ai eu en pleine conscience. Tu vois, c'est comme si je suis rentrée, mon corps était là, mon esprit était encore là-bas. Quand il est revenu, il y a eu boum, tu vois, une espèce de... Oh mince, et presque, mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Presque envie d'aller prendre, tu vois, des chefs dans le Larzac, quoi. Tu vois, te dire, mais bon sang, mais on est dans une société malade, on est dingue. Et après, il y a une espèce de régulation quand même. T'acceptes d'être né là où tu es né. Ce voyage... de partir au bout du monde m'a permis surtout d'aboutir à un voyage à l'intérieur de moi et de me rappeler que c'est essentiel que j'aille chercher à l'intérieur de moi de dépasser ce que je crois être autour de moi. Je revoyagerai peut-être, je l'espère, sûrement, c'est qu'une question d'organisation, en Inde, mais différemment. Plus dans un cadre prédéfini, parce que j'avais peur, parce que j'avais jamais vécu ça. Tu sais, peur de ce que tu peux rencontrer au-delà des frontières que tu t'es posées ou au-delà des frontières qu'on t'a fait croire, les frontières européennes en l'occurrence pour ma part, l'inconnu. Et maintenant que j'ai compris ce qu'il y avait au-delà de ces limites, ce qu'il y a au-delà de ces limites, c'est ni plus ni moins encore plus de compréhension du vivant et de soi. À un moment donné, quand tu éclates une fois ton plafond de verre, tu découvres que tout est possible. Le voyage, en fait, en réalité, bien sûr, tu peux partir au bout du monde, etc., pour te le découvrir, mais le plus gros voyage que j'ai fait dans cette expérience en Inde, ça a été de me rencontrer pleinement dénudée de tout artifice de notre culture.